L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, présentée par Bérénice Deville et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce tout nouveau numéro de l'Hebdo. Je vous rappelle que Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% digitale dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et cette semaine, on va s'intéresser à un élément de diversification de votre patrimoine, la forêt. Pour présenter ce numéro, je suis bien sûr en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fabrice Coustet.
Voilà, on va voir avec nos invités comment ça se passe si on veut diversifier sur les fonds forestiers, mais aussi vinicoles, viticoles, sur le modèle des SCPI. France Vallée est le premier à avoir créé un fonds forestier, à avoir eu un agrément AMF pour celui-ci. Alors comment cela fonctionne-t-il? Qui peut souscrire? Pour quel montant? Qu'en pensent les conseillers en gestion de patrimoine? Pourquoi avoir fait le choix de travailler avec la plateforme de distribution, dont Winimo? Pour les entreprises aussi, est-ce que c'est un bon moyen peut-être pour compenser les émissions de carbone? Réponse avec nos trois spécialistes. Bérénice, je vous laisse les présenter.
Eh bien, nous avons déjà Sonia Elminger, CGPI, administratrice de la CNCGP appartenant au cabinet Social Care Consulting. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi Eric Bengel, directeur associé de France Vallée. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, Benjamin Flotte de Pouzel, qui est déjà venu sur notre plateau, directeur associé de Wenimo.
Bonjour Bérénice.
Bonjour.
Voilà pour cette présentation. Effectivement, on va apprendre plein de choses. Donc, l'Hebdo Patrimoine spécial diversification spéciale groupement forestier avec notre partenaire du jour, France Vallée. C'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Éric Bengel, on démarre avec vous. Vous êtes directeur associé chez France Vallée. Alors, c'est vrai qu'on a énormément de possibilités aussi aujourd'hui, quand on est investisseur, de diversifier son patrimoine. Et pourtant, il y en a une en particulier qui est particulièrement intéressante et qui peut même être verte, pour le coup, dans tous les sens du terme, c'est investir sur les forêts. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer le principe?
Bien sûr, le principe, il est relativement simple, en fait, c'est de considérer des actifs fonciers comme des actifs patrimoniaux à part entière. On sait que dans les patrimoines des clients, on a beaucoup d'actifs immobiliers, beaucoup d'actifs financiers, très peu de fonciers. Donc le principe de France Vallée, c'était justement de réussir à investir sur ces actifs et en démocratiser l'accès pour permettre à des clients privés, via des conseillers en gestion de patrimoine, de pouvoir accéder à des actifs tels que la forêt.
Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe en ce moment? Puisque c'est vrai qu'on sait que les Français veulent de plus en plus faire, qu'ils ont de l'épargne, et en plus, ils veulent que ça fasse sens aujourd'hui, et que peut-être on revient sur des actifs un peu plus tangibles après des années de spéculation débridée.
Bah nous, on le constate ouvertement. Si on regarde les chiffres de 2020, on a réalisé une collecte assez conséquente par rapport à l'année précédente. Donc, on voit effectivement qu'on a de plus en plus de clients qui sont en recherche de sens. Et je pense que l'épidémie de la Covid nous a ramené un petit peu au centre, en disant qu'est-ce qu'il est important dans ma vie, qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Donc on arrive sur des actifs qui sont effectivement 100% verts, 100% naturels, qui contribuent à la préservation du patrimoine naturel français et qui en plus sont capables de générer un rendement. Donc on n'est pas dans du don ou des choses comme ça, on n'est pas là dans des campagnes pour replanter des arbres. On va sur des actifs avec les capitaux qu'on va lever, on va protéger tous ces massifs forestiers, les entretenir. Et ça, on sait que c'est bourré de vertus écologiques.
Bon, on va rentrer dans le détail effectivement de la souscription dans quelques instants. On continue le tour de table avec vous, Sonia. Sonia Miller, justement, vous êtes au contact des clients finaux qui organisent leur patrimoine avec votre aide, bien entendu. Est-ce que c'est quelque chose qui... je ne sais pas si c'est demandé aujourd'hui. Est-ce que les gens ont même conscience qu'ils peuvent investir aujourd'hui sur ces forêts, sur ces groupements forestiers?
Alors effectivement, c'est plutôt notre rôle de les aiguiller, de les orienter. En général, ils ne sont pas vraiment au courant de ce type d'investissement. Mais on a de plus en plus de demandes sur de l'investissement durable, dans le développement durable, de la finance verte. Donc on les oriente effectivement ensuite sur ce type d'investissement qui est diversifié, mais également qui est de la green finance, dirons-nous.
Ouais. Alors green finance, pour le coup, réelle, active.
Tout à fait.
Benjamin, oui. Flotte de Pouzel. Alors, on vous a découvert il y a quelques semaines,
oui, tout
c'était
à fait.
Sur ce plateau avec la plateforme Wenimo. On va quand même, pour ceux qui avaient raté le début ou l'épisode précédent, ils ne sont pas tous assidus, on va repréciser ce que fait la plateforme Wenimo et justement comment vous intégrez les produits France Vallée.
Tout à fait. Alors, Wenimo, c'est la première plateforme indépendante de souscription en architecture ouverte détenue par ses associés fondateurs. Donc on s'adresse vraiment à tous les conseillers en gestion de patrimoine CIF pour leur proposer un outil digital qui a été développé par une fintech Qualit Softwares et qui nous permet de souscrire à plusieurs produits en même temps avec une seule signature pour le client final. Donc il y a une vraie simplification, l'objectif étant de redonner du temps, de libérer du temps administratif pour les conseillers et que ça leur permette d'aller voir effectivement plus souvent leurs clients et de faire plus de business. Comment on a intégré la forêt? C'est qu'on a une vraie demande aujourd'hui. Donc demain, un client pourra faire de la SCPI et de la forêt en même temps sur une seule signature. Et effectivement, ce besoin de recentrer ses investissements sur quelque chose de concret, de toucher, de savoir que derrière, il y a des vertus écologiques, environnementales, il y a un vrai attrait au-delà de tout ce que peut apporter la forêt et dont on parlera sur les éventuels avantages. En termes de droits de succession, par exemple, ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a une vraie volonté. Et donc, nous, c'est une demande qu'on a de nos partenaires. Mmh. Et du coup, on a intégré les produits France Vallée. On est ravis, puisque voilà, les premières souscriptions sont arrivées et le retour est plutôt très positif.
Bon, c'est tant mieux. Alors, justement, si on regarde la plateforme Monimo, on voit surtout les fameuses SCPI, oui. Société Civile de Placement Immobilière, qu'on a bien compris sur la plateforme. Donc, pour les professionnels, souscrire assez rapidement et de manière très fluide. Pour France Vallée, je crois savoir que c'était justement, vous vous êtes calqué sur le modèle SCPI pour organiser cette collecte de fonds et investir ensuite dans les forêts.
Exactement. En fait, France Vallée fait ça depuis 2011, mais c'était au précédent sous forme de groupement foncier forestier. Donc on avait quelques contraintes en termes de distribution, pas plus de 150 sollicitations, etc. Donc du coup, on a travaillé avec l'AMF pour réussir à obtenir un statut qui puisse être beaucoup plus ouvert, où on puisse faire de la communication, de la distribution un peu plus acharné sur ce type de produit. Et donc, du coup, on en est arrivé au statut de GFI, groupement forestier d'investissement. Et globalement, les statuts du GFI sont quasiment les mêmes que ceux d'une SCPI. C'est la même terminologie. Ça fonctionne de la même manière, si ce n'est effectivement que les actifs sont totalement différents. Vous l'aurez compris, on n'est pas sur l'immobilier, on est sur des actifs forestiers. Et donc, du coup, ça nous permet de le proposer beaucoup plus ouvertement, ce type de produit. Et puis, pour les CGP qui vont être amenés à le distribuer, c'est un mode de fonctionnement qu'ils connaissent déjà par le biais des SCPI. C'est vraiment la même chose, valeur de retrait, valeur de réalisation. Donc ça simplifie très largement l'accès
à ce type.
Il n'y a pas de surprise.
D'accord. Donc c'est ouvert désormais. Il n'y a plus un numerus clausus au niveau des...
Ah non, c'est complètement ouvert. C'est un capital variable.
Donc on peut acheter, on peut vendre ses parts assez facilement.
Tout le monde peut s'y mettre.
Tout le monde peut s'y mettre.
D'accord. Alors les montants minimum, moi j'avais dans l'idée, c'est vrai sur ces forêts, que c'était réservé quand même à un certain patrimoine, qu'il fallait déjà avoir une diversification quand on avait déjà beaucoup d'immobilier, beaucoup d'actions. Sonia, vous pouvez peut-être... il y a quelques années, j'ai l'impression que ça a changé justement avec ce nouveau type de placement, que c'était réservé à peut-être des fortunes un peu plus importantes, imposantes. Aujourd'hui, tout le monde peut en faire, tout le monde peut mettre un peu de forêt dans son portefeuille.
Tout à fait. C'est un conseil, je dirais, de diversification. Et effectivement, on a à une époque, c'était plutôt en termes de succession, puisqu'il y a des avantages successoraux. Mais en termes de diversification, hors succession, dirons-nous, c'est du bon sens de diversifier son patrimoine. D'investir dans la forêt comme dans l'assurance vie ou dans l'immobilier traditionnel.
Et pourtant, la forêt, c'est du verre, c'est du bois. Je sais, Bérénice, que vous avez certaines réserves.
Oui, ça peut un peu faire peur quand on voit avec le réchauffement climatique, par exemple, les incendies, il y en a de plus en plus. Ça comporte des risques d'investir dans une forêt.
Il y a toujours des risques dans tout investissement et de toute façon, ce ne sont pas des investissements garantis.
Oui.
Mais quand on construit un patrimoine, et on est là, les conseillers en gestion de patrimoine, pour aider nos clients, la diversification fait que si à un moment donné, il y a un actif qui marche moins bien, c'est aussi rattrapé par d'autres. Donc,
ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Exactement.
Et concernant les avantages sur la succession dont vous parliez, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nos auditeurs?
Alors, il y a en termes de donation ou de succession, il y a un abattement de 75%.
Ouais.
Donc, c'est quand même un avantage très important.
C'est pas négligeable.
Ouais. C'est, voilà, exactement. Après, il n'y a pas non plus de limite d'âge sur la souscription. Donc, ça aussi, par rapport à l'assurance vie, moins de 70 ans, plus de 70 ans.
C'est-à-dire qu'à 80 ans, je peux acheter une forêt élaborer pour 100 000 euros et la transmettre à mes héritiers le jour de mon décès.
Acheter des parts de forêt, bien sûr. Oui, toujours sur les produits mutualisés. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de limite.
Et les transmettre.
Il n'y a pas de limite de montant et il n'y a pas de durée minimale de détention non plus.
D'accord.
Et les parts de forêt, ce que vous disiez, c'est très important parce que par rapport à votre question tout à l'heure, à l'époque, il fallait acheter une forêt et c'était compliqué. Oui. Une forêt, ça ne valait pas 50 000 euros. Et le fait d'avoir démocratisé les investissements forestiers par le biais de groupements forestiers ou de GFI permet aujourd'hui de donner accès à cette thématique-là à beaucoup plus de gens et du coup d'avoir pu le digitaliser aussi et de simplifier tout ce qui était souscription.
Et dans beaucoup de forêts, on n'investit pas dans une forêt, effectivement, comme le disait Benjamin, on investit dans une quarantaine de forêts.
Donc on a un petit bout de chaque forêt, en fait,
voilà, avec beaucoup d'espèces également, et une mixité d'essences de forêts, donc c'est aussi diversifiant.
Oui, c'est un peu le principe de la SCPI, on n'a pas un seul immeuble, c'est mais ça. Plusieurs immeubles, des commerces, des bureaux. Là, on va être c'est quoi faites-nous voyager un peu, Eric. Alors, on est où? Dans les Vosges, dans les Landes, dans les Cévennes?
On n'est pas dans les Landes, pour revenir sur l'objection de Bérénice, effectivement, il y a un risque incendie. Donc pour ça, il suffit déjà d'exclure tout le pourtour méditerranéen.
D'accord.
Là, vous diminuez très très fortement le risque d'incendie dans vos forêts. En plus, aujourd'hui, par le biais de police d'assurance, on peut couvrir ce risque-là.
Il y a une possibilité de couvrir.
Voilà, toutes nos forêts sont couvertes contre le risque incendie et contre le risque tempête. Donc déjà, on vient minorer très très fortement le risque. Après, pour vous faire voyager, ce qu'on aime bien, nous, c'est effectivement avoir un prisme très financier sur nos portefeuilles. On vient tous du monde de l'investissement. Et donc, du coup, on va diversifier par région. Donc le Cantal, Benjamin connaît bien, on en a beaucoup. On en a beaucoup également dans l'Allier, etc. Donc un petit peu partout en France, dans les régions où la forêt présente véritablement des avantages. Mmh. Quand on parle d'avantages, c'est la qualité des essences, la nature même de la forêt. Vous avez des forêts qui ne sont pas très bien entretenues, qui ne présentent aucun avantage. On va diversifier également les essences. Nous, on adore les forêts avec des essences totalement diversifiées. Parce que déjà, c'est mieux pour la biodiversité et ça permet de limiter les risques. Et puis, on aime bien des forêts avec des maturités différentes. Donc, des forêts un peu âgées et puis des forêts un peu plus jeunes. Si vous êtes sur des jeunes forêts, il va falloir attendre quelques décennies pour pouvoir obtenir du rendement. Mais si vous êtes sur des forêts matures, vous avez du rendement immédiat.
Alors, le rendement, bien sûr, ce sont les bois qui poussent. Et ensuite, il faut observer des coupes. C'est très réglementé, évidemment.
Alors, c'est complètement réglementé. En France, vous avez ce qu'on appelle un plan simple de gestion. C'est un peu l'équivalent d'un business plan pour une entreprise. Ça vous limite dans vos nombres de coupes, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous avez également des obligations en termes de replantation. Et ce qui fait qu'en France, on a un massif forestier qui se porte plutôt bien. Contrairement à ce que les gens pensent, il continue à se développer. C'est un tiers du territoire aujourd'hui français qui est recouvert, France métropolitaine, qui est recouvert par les forêts. Et ça continue à se développer. Donc ce rendement, dans un premier temps, effectivement, il va provenir de ces coupes de bois qui sont effectuées. Alors on va vendre du bois, soit sur pied, soit une fois qu'il est débité. Et ce rendement, il va être aux alentours de 1% par an, versé aux souscripteurs chaque année, comme un dividende. C'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas un dividende d'un point de vue fiscal. Parce que là aussi, petite subtilité française, c'est considéré comme de la coupe de bois, donc il y a un forfait cadastral.
Voilà. D'accord.
En fait, l'administration fiscale part du principe que si vous avez un peu de bois et de forêt derrière chez vous, vous allez vous servir en bois mort pour alimenter la cheminée. Bah, ça, c'est gratuit. L'administration fiscale n'aime pas ce qui est gratuit. Donc, forfaitairement, ils vont taxer les propriétaires forestiers. C'est aux alentours de 4% de la taxation. Donc, ça, c'est le premier levier de performance. C'est ce rendement versé annuellement. Et puis, le deuxième, comme une SCPI, ça va être la capitalisation des actifs embarqués en portefeuille. Partez du principe, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, le prix de l'hectare de forêt, c'est une hausse en moyenne de 3% par an depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et ça, alors, ça, c'est vraiment une moyenne. C'est comme si on était capable de donner un prix, un moyen de l'immobilier. Ça n'aurait absolument aucun sens entre Paris 7e et Maubeuge. On a des écarts-types qui sont quand même assez conséquents. Là, c'est exactement la même chose sur les forêts. Nous, on n'achète que des forêts de taille très conséquente, supérieure à 50 hectares. Et là, on se rend compte que la hausse est beaucoup plus conséquente que les 3% évoqués. D'accord. Et aujourd'hui, une véritable recherche pour cet actif naturel. Pour vous donner un ordre d'idée, en règle générale, sur des belles forêts, on est 5 ou 6 en compétition.
Ah oui.
Récemment, oui, on se connaît bien en plus.
D'accord.
récemment, il y a eu une très belle forêt de 546 hectares qui s'est vendue. Il y a eu 19 dossiers déposés.
Et du coup, sur quoi qui remporte
C'est pas forcément le mieux disant. Dans ce cas-là, c'est nous qui avons remporté le deal, mais on n'était pas les mieux disants. C'est surtout le savoir-faire et puis la capacité, justement, d'avoir des expertises pour gérer de façon
optimale. Gérer, entretenir.
Exactement. Alors, Petite précision quand même, France Vallée, on est 20 collaborateurs oui. à Paris, mais on a contractualisé avec 70 exploitants forestiers. Donc au quotidien, ce sont
dans eux... Dans toute la France ?
Dans toute la France, oui. Donc ce sont eux qui veillent à ce que les forêts se portent bien, ce sont eux qui réalisent les coupes, etc. Nous, bon, on est l'école blanc, on reste à Paris.
Est-ce que vous vérifiez quand même ou...
On est systématiquement le donneur d'ordre, donc c'est nous qui vérifions tout. On a une équipe de 3 personnes chez France Vallée dédiée à l'investissement forestier, donc qui s'y connaissent particulièrement bien, mais on reste le seul donneur d'ordre. Au quotidien, ce sont ces gens-là qui veillent. Et puis nous, ça nous intéresse d'avoir des personnes comme ça sur le terrain, parce qu'on est sur un petit marché quand même.
Bien sûr.
Donc il nous faut un sourcing assez précis, et généralement, ces exploitants forestiers nous apportent beaucoup de dossiers. Parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont entendu parler de la cession possible d'une forêt, etc., etc. Donc nous, ça nous intéresse d'avoir ces dossiers. Ce sont généralement des dossiers de qualité. Et en plus, l'exploitant forestier peut avoir la quasi-certitude qu'on va le prendre pour exploiter la forêt qu'on envisage d'acquérir.
Bon, on en sait un petit peu plus, voilà, pour sur cet investissement forestier. On a encore beaucoup de questions. Vous restez avec nous. On fait une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour ce numéro spécial forêt avec un titre d'actualité avec nos invités. À tout de suite.
Forest, la chanson, la fameuse chanson du groupe britannique The Cure, sortie en 1980. Bah, je n'étais pas née, dis donc.
Complètement d'actualité, évidemment. Allez, on se retrouve tout de suite.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Émission spéciale ce matin, spéciale investissement dans les forêts, avec nos spécialistes, Eric Benjal, directeur associé de France Vallée, Benjamin Flotte de Puzzle, directeur associé de Wenimo, et Sonia Emlinger de CGPI, conseiller en gestion de patrimoine, donc qui conseille ses clients justement sur cet actif de diversification.
Et émission en partenariat avec France Vallée.
Tout à fait. Alors tiens, Benjamin, on reprend avec vous. Oui. Durant la pause, on évoquait justement quelque chose qui... touche tout le monde en ce moment, c'est les pénuries de matières premières. Est-ce que ça touche également le bois ?
Oui, alors rebondir sur ce que disait Eric tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a une grosse demande. Donc, il y a toute la partie effectivement environnementale et on sent une tension. Alors, je vous donne un exemple, moi je devais aller chez IKEA pour acheter des meubles et en fait, tous les meubles, ils ont des ruptures de stock monstrueuses sur certaines typologies de produits, notamment sur le bois. Et donc, il y a une vraie tension aujourd'hui. Donc, ça va se ressentir forcément sur les prix des forêts. Eric évoquait pendant la pause le fait que les Chinois ont stoppé les coupes de bois dans leurs forêts. Donc, maintenant, ils viennent acheter à l'étranger. Donc, ils font monter les prix sur les forêts à l'étranger. Donc, ils font main basse dans plein de pays où il n'y a pas de réglementation sur les forêts pour pouvoir capter le bois. Heureusement, en France, on est protégé sur cette partie-là, mais il y a plein de pays où c'est absolument catastrophique. Et donc, on citait d'autres fonds, c'est pas la thématique aujourd'hui, mais des fonds qui investissent sur la thématique bois aussi, aujourd'hui ont des performances qui sont très très bonnes, parce qu'effectivement, il y a une grosse pénurie et qu'avec la reprise post-Covid, il y a une forte demande sur le bois.
Et le bois est à la mode aussi, que c'est écolo. Voilà. Tous les bâtiments maintenant et pour l'environnement sont faits en bois. C'est vrai que... Mais du coup, comment on va faire? Est-ce que ça va rester... est-ce que la demande va continuer d'augmenter?
Il y a tout ça. Enfin, Eric en parlera mieux que moi et je lui laisserai la parole. Mais il y avait une chose qui avait été dite et par rapport aussi à cette demande, c'est que les tours du World Trade Center, si elles avaient été faites en bois à l'époque, se seraient effondrées beaucoup moins vite qu'elles ne se sont effondrées avec l'acier, parce qu'en fait l'acier avec la chaleur fond, alors que le bois, le temps qui se consume, ça aurait permis probablement à beaucoup plus de gens de pouvoir partir avant.
Je suis pas sûr qu'on puisse faire des tours aussi hautes en bois pour l'instant. Il y en a une qui vient de sortir très récemment.
En Norvège, ils font des tours de 70-75 mètres et à Tokyo, ils envisagent d'en faire une de 450 mètres. Entièrement en bois. Donc aujourd'hui, il y a moins ce frein de l'ingénierie technologique du bâtiment pour réussir à construire des immeubles de cette sorte. Et puis, vous le disiez, Bérénice, ce n'est pas simplement un effet de mode, c'est qu'on a aussi des normes, notamment en France, RT 2020, qui va imposer à chaque constructeur de faire figurer le montant de carbone nécessaire pour un kilo de matériaux. Donc, très honnêtement, ça va militer ouvertement pour le bois. Vous avez également la ville durable, où toutes les collectivités locales, quand elles vont devoir passer des commandes pour construire une piscine, une bibliothèque ou autre, devront le faire à 50% en matériaux biosourcés. Biosourcés, on peut trouver effectivement du chanvre ou autre pour l'isolation, mais pour la structure, on n'a jamais fait mieux que le bois. Donc là, effectivement, il y a une véritable demande. Il y a effectivement ce facteur chinois. Il y a un facteur aussi où Donald Trump a eu la mauvaise idée, avant de quitter la Maison-Blanche, de dénoncer un accord commercial avec le Canada. Vous savez, 97% des maisons individuelles aux États-Unis sont faites en bois. Et donc, les constructeurs américains ne pouvaient plus acheter du bois au Canada et donc se sont rabattus sur l'Europe et ont raflé une grande partie des stocks. Donc là, en ce moment, c'est vraiment sous tension.
Ça veut dire que les prix montent. Vous le voyez, on parlait justement vous achetez plutôt des grandes surfaces avec beaucoup de biodiversité, mais vous voyez les prix monter où il y a de plus en plus de concurrence, oui ?
Sur les grandes forêts, oui, ouvertement, parce que pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on avait vendu du bois sur pied, donc à un acheteur qui avait payé 40 euros du mètre cube, c'est très concret. Cette année, sur les mêmes essences, avec le même acheteur dans la même forêt, il est prêt à payer 115 euros du mètre cube.
Ah oui.
Voilà, donc ça grimpe.
Ouais. Et ça va continuer.
Difficile de le dire, mais nous, on part du principe que le bois est un actif hautement stratégique pour des raisons, effectivement, de captation carbone, etc., etc. Mais c'est surtout que derrière, on a des débouchés qui sont de plus en plus multiples. On a naturellement la construction. On a également ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un arbre, ça s'exploite à 100%. On a également le boom de la logistique. La logistique, c'est du cartonnage. Donc le cartonnage, c'est de la pâte à papier. Donc là, il y a des demandes très, très fortes. Et puis, on voit des secteurs d'activité qui sont en train de se repenser. Je pense notamment au textile, qui essaie de s'affranchir de tout ce qui est produit issu de la pétrochimie et donc qui se rabat sur la cellulose de bois. Donc aujourd'hui, prochainement, en tout cas dans vos vêtements, vous aurez entre 50 et 60% de cellulose de bois dans votre t-shirt pour aller faire votre jogging.
C'est parfait, ça.
C'est parfait, oui. Ça veut dire qu'il y a...
Ça va gratter un peu, peut-être.
Pas du tout. Pas du tout, au contraire.
Non, je plaisante, on sait
que
les procédés sont là.
Que des produits issus de la pétrochimie.
Oui, c'est mieux. Alors justement, Sonia, je voudrais, avec vous, qui êtes, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, les professionnels de la finance, comme peut-être ceux qui sont intéressés, les investisseurs finaux, on parlait justement de l'idée d'investir mieux, d'investir durable aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, quand vous présentez justement cet investissement, on le disait, de diversification, qui vient peut-être après l'immobilier, après les assurances-vie, etc. Est-ce que les gens sont appétents? Est-ce qu'ils vous écoutent peut-être avec plus d'attention aujourd'hui?
Ah oui, c'est évident. Il y a un phénomène dont tout ce que disait effectivement Eric par rapport à l'ESG, par rapport à l'investissement durable, par rapport à l'investissement qui a du sens, le traçage de l'investissement également. On sait exactement où va notre argent, ouais, finalement. Mais également, la forêt, c'est l'investissement dans la forêt française. La forêt française, je crois que c'est la quatrième forêt européenne. Derrière, c'est des centaines de milliers d'emplois. Je ne sais pas combien, mais c'est assez important.
425. 000.
Voilà, quoi, 425
c'est
double, 000 emplois.
C'est le double du secteur de l'automobile, voilà, en France.
Ah d'accord, c'est étonnant. On n'a pas ça en tête.
Donc nos investisseurs français sont aussi heureux d'investir dans du développement durable, mais également dans des emplois qui ne vont pas spécialement être délocalisés.
Ah, exactement, non délocalisables.
Est-ce qu'ils pensent eux-mêmes à la forêt ou c'est vous qui leur proposez, est-ce qu'ils connaissent ou c'est vous qui leur proposez quand ils vous parlent d'investissement responsable?
Oui, c'est plutôt nous, effectivement, parce qu'ils n'y pensent pas. Ils pensent que la forêt, il va falloir acheter des hectares très importants, et donc mettre des sommes qu'il faudra entretenir, embaucher des gens, etc. Ils ne connaissent pas encore, la plupart du temps, les investissements en part, et puis surtout cette diversification qui investit dans plusieurs forêts. Ça, oui, c'est quand même aussi un avantage.
Mais c'est là qu'on a du mal à s'imaginer au début.
Oui.
Et puis, il y a un élément pour compléter ce que disait Sonia. En fait, quand vous interrogez les Français, ils sont persuadés que la forêt est publique.
Oui,
c'est vrai.
En France, la forêt est détenue à 75% par les investisseurs privés. On n'a que 25% détenus par le public. Donc ça aussi, c'est une petite...
Inconsciemment, ça joue aussi, vous pensez.
Bien sûr, oui. Si vous allez comme ça proposer un produit investi sur les forêts, on va penser forêt de Fontainebleau, forêt de Meudon, ouais, des choses comme ça. Là, pas du tout, du tout. Hein. Ouais. Mais on a quand même 75% de forêts qui sont privées en France.
Donc 75% de forêts privées, on a une diversification, on l'a dit, géographique, on a une diversification dans les essences également, du chêne, du hêtre, de l'épicéa, du frêne, qu'est-ce qu'on trouve ?
Du douglas, etc. Mais il faut vraiment... Mais ça dépend, encore une fois, le prix...
Pour faire la commode qui manque à Saint-Germain.
C'est de l'aggloméré, mais ce que disait, sans citer la marque, ce que disait Benjamin est assez intéressant, parce qu'en fait, nous, on commence à acheter des forêts en Europe, notamment en Europe centrale, Roumanie et autres, et à chaque fois, on rencontre soit IKEA, soit une structure portée par IKEA.
D'accord.
Donc, ils ont quand même la capacité financière aujourd'hui de pouvoir sécuriser leur chaîne d'approvisionnement, et on se rend compte que même des entreprises comme celle-ci, aujourd'hui, n'arrivent plus à trouver du bois. Donc, c'est quand même assez significatif.
Ouais. Sonia, j'avais une question. Quand on parle de diversification, ça veut dire qu'on va le mettre peut-être après d'autres placements. Quelle est la part à peu près? On parle de 5 à 10%. Qu'est-ce que vous recommandez pour vos clients?
Tout à fait. 5 à 10%, ça dépend des âges. Mais comme c'est un investissement durable, c'est un investissement sur du long terme.
Ouais.
Donc effectivement, 5 à 10%, ça me paraît très raisonnable en termes de diversification comme d'autres actifs financiers.
Et est-ce qu'on peut commencer par investir dans les forêts? Est-ce que en tant que, je sais pas, les jeunes actifs qui commencent à vouloir faire des investissements pour leur avenir, est-ce que quand ils viennent voir, est-ce que vous pouvez en premier investissement leur proposer des parts de forêt?
Tout à fait. Ça va dépendre, bien entendu, de leur épargne globale, donc de ce qu'on disait par rapport à la diversification de leur patrimoine. Mais si ils sont capables de partir sur une durée moyenne d'une dizaine d'années, à ce moment-là, on peut évidemment proposer ce type d'investissement. Et plus ils sont jeunes, plus ils sont demandeurs de ce type d'investissement qui a du sens, qui est durable, qui est...
Et pour rebondir par rapport à ce que dit Sonia, pour les jeunes, c'est ceux qui ont, aujourd'hui, on sait que la jeunesse a beaucoup ce prisme de l'écologie, de l'environnement.
Ouais.
Il y a la faculté aussi d'avoir des réductions d'impôts sur le revenu via des produits forestiers. Effectivement, ça peut être plus sur cette thématique d'éventuellement avoir une petite réduction d'impôts et en même temps de profiter de cet investissement écologique, plutôt que d'avoir le prisme de réduction sur les droits de succession. Parce qu'effectivement, quand on a 30 ans, on se pose moins la question sur les droits de succession. Et juste une chose pour revenir sur la demande des produits forestiers. On l'avait vu avec Eric, on a travaillé sur des dossiers qui m'avaient été apportés par des conseillers en gestion de patrimoine, de personnes morales, de sociétés qui voulaient investir dans les produits forestiers pour diversifier leur trésorerie, leurs investissements, et qui leur permettait aussi de verdir leur discours vis-à-vis de leur clientèle. Prenez une société de déménagement, ils investissent dans la forêt. Derrière, dans leur newsletter qu'ils envoient à leurs clients, ça leur permet de dire, nous, on est transport, donc forcément, on pollue. Ouais. Et pour compenser ça, on fait des investissements dans des produits forestiers. Voilà, donc il y a aussi ces demandes de personnes morales et d'investissements par des de trésorerie.
Je confirme, sur les gros investisseurs institutionnels, on a des demandes très très fréquentes. Ça se fait beaucoup aux États-Unis.
C'est très à la mode en ce moment.
Oui, c'est très à la mode, mais ça vient... Effectivement, on sait que c'est un actif, entre guillemets, assez résilient. Là, pareil, pour un jeune client, il sait que la valeur liquidative ne va pas s'effondrer, normalement, contrairement à un investissement dans une start-up ou des choses comme ça. Et pour les investisseurs institutionnels, ils viennent chercher une diversification des actifs, donc dans leur portefeuille, un actif vert, et ça c'est toujours mieux à présenter dans un conseil d'administration qu'un investissement dans des énergies fossiles ou des choses comme ça. Et puis derrière, il y a le côté assez résilient du rendement qui les intéresse de plus en plus.
Alors justement, on va en parler dans un instant, puisque la forêt, ça capture aussi le carbone, ça c'est le grand avantage. On va voir effectivement est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est vraiment efficace. Ce sera dans la troisième partie. À tout de suite.
J'ai vu des terres brûlées sous des soleils d'Afrique qui donnaient du fruit. J'ai vu des hommes parler dans des langues antiques, mais l'on s'est compris. Dabalikou Sabata, des Bolanio d'Habitat. J'ai vu des ciels ardents et la fumée des volcans pour seuls nuages. J'ai vu des ciels d'ébène et soudain dans la nuit les yeux de Dabali. Sabata, des Bolanio d'Habitat. Dabali Sabata, de la orbe carina. Dabali Sabata, des Bolanio
Dabali de Vianney. Dabali, en fait, c'est une chanson en hommage à l'Éthiopie, puisque Vianney s'est rendu en Éthiopie il y a 4 mois, et Dabali, c'est une femme qu'il a rencontrée là-bas. Voilà, ouais. Pour la petite histoire.
Je ne sais pas si c'est une femme.
Si. C'est une femme, oui. Ah bon. Qu'il a rencontrée là-bas, et voilà, il lui a dédié une chanson.
C'est une émission de télé, non ?
C'était un rendez-vous en terre inconnue.
Exactement, c'était sur France 2.
Très bien, je l'ai vu.
Ouais. Ok, et ben voilà, un petit tour par. C'est un petit détour par l'Éthiopie. On revient tout de suite sur l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine. L'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Avec notre partenaire France Vallée sur cette émission, on découvre le monde de la forêt, comment on peut investir facilement. On a vu que c'était compliqué il y a encore quelques années. Aujourd'hui, avec le même système qu'une SCPI, on peut très simplement investir dans des parts de forêt. Alors justement, on rentre dans le vif du sujet. Pratiquement, combien ça coûte, Eric ? À partir de combien on peut devenir propriétaire, voilà, comme les SCPI, d'une petite part de forêt ? On l'a vu partout en France.
Alors, on fait, nous, un petit distinguo entre les forêts françaises et les forêts européennes. Parce que les forêts françaises, comme je vous l'ai expliqué, on est quand même sur un marché de niche. Il est difficile aujourd'hui de trouver des beaux dossiers. Partez du principe que sur 10 dossiers que l'on reçoit, on en a à peu près 9 qu'on va éliminer. Parce qu'on estime que la qualité des sols n'est pas bonne, la qualité des essences non plus, etc. Donc, sur les forêts françaises, ça sera accessible à partir de 30 000 euros. Et pour les forêts européennes, c'est à partir de 1 000 euros.
D'accord. Ah, c'est plus cher, là. Donc, on a une forêt un peu premium, alors, finalement, en France.
On peut le dire comme ça.
Benjamin, sur Wenimo, donc du coup, ça veut dire que l'ensemble de ceux qui consultent Wenimo vont pouvoir assez facilement proposer. Ça sera dans le catalogue, presque automatiquement.
Alors, c'est pas une liste à la Prévert, c'est pas un catalogue, mais effectivement, on met à disposition de nos partenaires aujourd'hui près d'une cinquantaine. Depuis qu'on s'est vu, il y en a eu beaucoup qui nous ont rejoints et j'en suis ravi. Effectivement, on met à disposition tous les produits qui sont éligibles sur la plateforme, les SCPI et les groupements forestiers. Et du coup, ça permet effectivement aujourd'hui pour des partenaires d'avoir le groupement forestier d'investissement patrimoine qui est donc forêt française plutôt dédiée, on va dire, sur les problématiques de succession et de transmission en 100% digital. Et on va intégrer très rapidement les produits fiscaux, donc les GFI patrimoine forêt 4, les GFI Europe également pour tout ce qui est défiscalisation. Et donc, ils sont éligibles et c'est pour France Vallée la possibilité aussi de donner une visibilité à ces produits-là via la plateforme et des éventuels partenaires qui ne connaîtraient pas encore ou qui n'auraient pas eu cette approche des investissements forestiers, de les découvrir par la plateforme Wenimo.
Sonia, on sait que bon, les Français sont très appétents hein, dans ces timings là, de défiscalisation, souvent en fin d'année. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous aussi proposer ces types d'investissements pour réduire aussi la facture fiscale pour vos clients ?
Tout à fait. Et effectivement, avec la plateforme Wenimo, l'avantage pour les CGP, c'est qu'on peut faire une souscription très rapide. On a un service après-vente. Si on a besoin de quoi que ce soit, on n'est pas obligé d'appeler. On a juste à envoyer un petit message à Benjamin.
Qui lit tous les messages.
Voilà.
24 sur 24.
C'est ça. Toujours connecté. Et donc, ça nous donne quand même une facilité. Déjà, la souscription en signature électronique, c'est quand même un très gros avantage.
C'est rapide.
Aujourd'hui, avec le télétravail, les personnes qui peuvent travailler ailleurs que dans leur domicile principal, ça permet quand même de réaliser des investissements tout en étant à la campagne.
Et ça donne plus envie d'investir à vos clients ? Le fait que ce soit rapide, en un clic, un peu tout à disposition ?
Ça aide. Quand on leur dit, écoutez, en plus, on va pouvoir faire une souscription électronique avec signature simple et facile, ça aide évidemment, bien sûr, à la souscription.
Eric Bergeon, une question un petit peu plus technique. Vous nous avez parlé justement de voilà, cet achat-revente, ça paraît très financier. Vous-même, ne mettez pas la main à la pâte, vous n'avez pas l'impression de tronçonner tous les jours.
Je ne suis pas bûcheron.
Voilà. Néanmoins, c'est vrai que ça participe quand même de la vie de l'écosystème et de l'entretien. Puisque vous disiez, plus de 400 000 personnes qui travaillent sur le terrain, c'est très important. Et il faut aussi les entretenir. Ces fois, c'est un bien commun, c'est même un bien de l'humanité pour le coup, puisque ça participe à réduire aussi les gaz à effet de serre.
Ce sont des puits naturels de carbone, ça c'est certain. Et aujourd'hui, toutes les études le prouvent. Une forêt entretenue capte beaucoup plus de CO2 qu'une forêt non entretenue. Alors quand on dit entretenue, c'est pas à en faire du gazon anglais. Hein. Il faut laisser du bois mort, il faut laisser des choses comme ça, etc. Mais de temps en temps, faire des coupes d'éclaircies pour permettre aux grands éléments de pouvoir pousser un peu plus rapidement. Donc c'est une gestion au quotidien qui s'exerce. Et cette dimension purement écologique, aujourd'hui, elle a véritablement du sens. À une petite différence près, c'est qu'en fait, on sait aujourd'hui, nous, on mesure chez France Vallée combien capte de CO2 l'ensemble de nos forêts. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 1 000 euros investis, c'est 32 tonnes de CO2, équivalent CO2, confisquées.
Ça veut dire que...
Oui, c'est précis.
On est obligé de tenir des inventaires comme celui-ci.
C'est étonnant.
Oui, c'est... Alors, en fait, il y a une règle, je ne vais pas faire très très technique, mais en fait... On l'a tous appris à l'école, c'est la photosynthèse.
Bien sûr.
D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Mais le bois, surtout, séquestre. il conserve, il stocke du CO2. Donc si vous avez des meubles en bois chez vous, partez du principe qu'il regorge de CO2 confisqué. Ils ne seront libérés qu'à partir du moment où il y aura une phase de combustion. Et troisième chose, c'est que le recours au bois permet d'éviter de recourir à des produits issus de la pétrochimie ou ayant fait appel à de l'énergie fossile. Donc ces trois règles aujourd'hui, les trois S, nous permettent de calculer très précisément pour l'ensemble du portefeuille de France Vallée le calibrage complet de CO2 confisqué.
Et on le disait tout à l'heure, du coup, il y a des sociétés qui sont intéressées, alors je ne vais pas dire se racheter une conduite, mais en tout cas compenser peut-être des émissions un peu trop importantes,
non,
ou du transport.
Compenser, non. Ça ne fonctionne pas pour une raison très simple. En fait, pour compenser, il faudrait qu'il y ait une captation additionnelle de CO2.
D'accord.
La forêt, qu'elle soit détenue par une personne physique ou pour une personne morale...
Pas parce que ça vaut plus cher que ça va
continuer.
Exactement. En tout cas, l'arbre ne s'en soucie pas, il continue à faire son travail au quotidien. Donc pour qu'il y ait captation additionnelle et donc compensation, il faut replanter des nouvelles forêts sur des terrains qui n'étaient pas, alors soit qui étaient des forêts ravagées, soit qui étaient par exemple des champs agricoles ou des choses comme ça. Là, précisément, on va pouvoir mesurer l'additionnalité du carbone confisqué. Mais donc, comme le disait Benjamin, c'est plus aujourd'hui, alors c'est pas du greenwashing, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur des actifs verts qui remplissent leur rôle purement écologique, mais ça permet effectivement de pouvoir montrer à ses clients ou prospects qu'il y a une démarche engagée dans une forme de transition écologique.
C'est un peu pour se donner bonne conscience quand
pas
même,
forcément,
parfois.
Pas forcément, parce qu'on ne va pas reprendre cet exemple, mais quand vous avez une flotte de 500 camions qui parcourent l'Europe, aujourd'hui, difficile de les faire rouler à l'électricité. Tant qu'on n'aura pas la solution technologique pour le faire...
On est obligé de passer
par... Mais voilà, au moins, ce sont des acteurs qui se disent engagés, et je pense qu'ils le sont réellement, dans cette forme de transition écologique où on a tous bien compris qu'on est peut-être à la limite d'un
bien
système.
Sûr. Est-ce qu'on a un savoir-faire français qu'on peut exporter quand, par exemple, vous achetez des forêts en Roumanie ou dans d'autres pays ?
La Roumanie, ce n'est pas forcément le bon exemple, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont présents là-bas, des exploitants forestiers. Mais en France, oui, il y a un véritable savoir-faire. On parlait justement du tiers du territoire qui est couvert par de la forêt en France. On a surtout des essences qui sont très nobles. On a beaucoup de chênes, on a beaucoup de hêtres. Ce qu'on avait précédemment en Allemagne, mais la forêt allemande a été repensée. Ils ont plutôt opté pour des essences qui poussent vite et soi-disant plus rentables. Nous, on continue à préférer ces forêts hautement diversifiées.
Oui, parce que quand on prend le bois, il y a un temps pour que ça repousse. Et comment on jongle justement entre...
Eh bien justement, dans le portefeuille, en maniant des jeunes forêts avec des forêts un petit peu plus âgées. Et puis ça va être un petit peu comme un portefeuille obligataire. Voilà, vous avez des lignes à brève échéance, des lignes à moyenne échéance et puis des lignes à longue échéance. Là, c'est exactement la même chose.
Et ça, tout est calculé au niveau du timing ?
Tout est calculé, tout.
Donc vous connaissez les maturités comme les obligations, vous qui êtes financier, vous savez qu'à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans...
Tout est déjà organisé, tout est déjà prévu.
D'accord.
Avec un rendement qui n'est pas loin. C'est pas mal. Oui, Benjamin.
Dire une dernière chose, et la digitalisation, ça apporte de la simplification, bien évidemment, pour les CGP en ces périodes qui n'étaient pas forcément évidentes de télétravail.
Ouais.
C'est aussi une simplification pour la plateforme parce qu'on apporte vraiment un réel service de communication et c'est très environnemental puisque finalement, on réduit le papier à zéro. C'est-à-dire que tous les documents qui sont les rapports annuels, les choses comme ça qu'on était censé remettre, bah finalement aujourd'hui c'est tout en digital.
Avec un code SMS, c'est ça hein ?
Alors on signe tout avec effectivement un code SMS. Tous les documents obligatoires que l'AMF nous impose de remettre aux clients sont transmis automatiquement aux clients en digital. Mmh. Donc il n'y a plus l'impression des rapports annuels, des bulletins trimestriels, etc. qui prenaient beaucoup de papier et finalement ça a aussi cette préservation environnementale.
Et puis c'est quand même bien parce qu'on a moins à stocker chez soi aussi.
Voilà,
parce que les placards ou les dossiers s'empilent, c'est problématique aussi, ça prend de la place.
Exactement.
Pour vous, Sonia, au quotidien, c'est vrai, après cette année, on fait le bilan. Tout le monde est rentré un petit peu et dans le télétravail et dans la relation à distance. Je pense que vous êtes quand même content de revoir vos clients où il y a eu un changement. Là, ils préfèrent maintenant vous appeler, ça suffit.
Il y a eu effectivement un changement sur 3-4 rendez-vous par an, par exemple. On peut maintenant en faire 2 en visio, alors qu'avant, les gens étaient quand même assez réfractaires, surtout passé un certain âge. Mais on sent vraiment que les clients ont besoin de nous revoir.
De contact.
De contact, c'est évident. Et là, il y a une forte demande de retour.
Est-ce que le Wi-Fi passe bien dans votre chalet en bois ?
Oui, il passe très très bien, même au fin fond d'Auvergne,
on
a de la 4G. Et ça marche très très bien. Et beaucoup de demandes de télétravail d'ailleurs.
Ah oui, c'est tant mieux là aussi. Ça sera l'objet d'autres émissions, effectivement, ce monde du travail qui change. Éric, je termine avec vous, puisqu'on a parlé de la forêt, mais vous proposez aussi du vin. Bah oui, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ou d'investissement viticole, est-ce qu'on va pouvoir avoir, de manière très simple, comme vous venez de nous expliquer, la possibilité d'investir dans le Champagne, dans le Bordeaux, sur ce même modèle ou pas encore ?
Si, si. Alors, pas sur le vin, sur le foncier. Nous, on est spécialisés...
Donc sur les vignes, c'est-à-dire sur les vignes. Des parcelles.
Okay. Exactement. Nous, on est spécialisés sur le viticole en Champagne, parce que vous l'aurez bien compris, on aime bien les actifs rares et cantonnés. Il n'y a pas plus cantonné que le vignoble de Champagne. Et donc, en fait, on va acheter des parcelles qui sont occupées par les exploitants. Et donc, on va percevoir un tiers de la récolte de raisin. Et ce raisin, on s'empresse de le revendre soit à des négociants, soit à des maisons de Champagne, soit à l'exploitant s'il en a besoin. Et donc, là aussi, sur le même principe, ça va générer un rendement annualisé et ensuite capitalisation du portefeuille. Allez-y, bien
sûr. Oui, au niveau du rendement, justement, par rapport à la forêt, on est
c'est
sur...
un peu plus faible. On est aux alentours de 0,7%, sauf qu'on offre une petite possibilité aux associés, c'est de transformer leurs dividendes en acquisition de bouteilles de champagne à prix discounté.
C'est intéressant, ça.
Voilà.
C'est pas mal. Alors, pourquoi le rendement est si faible? C'est évidemment, on est sur des parcelles parmi les plus chères du monde à l'hectare. Hein.
Un million en moyenne. Mmh. Et c'est surtout des toutes petites parcelles.
Ouais. D'accord.
Et avec des petites productions aussi, puisque là, pour le coup, on privilégie la qualité à la quantité.
Exactement.
Est-ce qu'il y a un champagne France-Vallée, du coup, ou pas encore?
Non, pas du tout. Non, c'est pas prévu, c'est pas prévu.
D'accord. Bon, en tout cas, un grand merci, messieurs, dames, puisqu'on en sait un petit peu plus, justement, sur ces investissements forestiers. Hein, voilà, j'ai l'impression que c'était compliqué pour se réserver peut-être à une certaine élite à partir d'un certain portefeuille. Aujourd'hui, on l'a vu, finalement, 30 000 euros, hein, quand on a déjà son PEA ou ses placements financiers ou immobiliers bien garnis, on peut diversifier.
Et 1 000 euros pour les forêts européennes.
Exactement.
1 000 euros pour les forêts
accessible.
Européennes.
Avec une réduction IRPM.
En plus, voilà. Alors, rapprochez-vous d'urgence de votre conseiller en gestion de patrimoine, si vous n'en avez pas. Appelez Sonia, évidemment. Un grand merci en tout cas à vous tous. Sonia Hemlinger, donc CGPI, merci. Benjamin Flotte de Puzzle pour l'excellente plateforme Wenimo, merci.
Merci à vous.
Et puis Eric Bingel, donc directeur associé France Vallée. On a été ravis de faire cette émission avec vous. Émission préparée par Sophie Bernard, réalisée par Jason Pignero. Merci Bérénice.
Merci Fabrice.
On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.